France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag des informés également sur le canal 27 de la TNT. Alors vous le savez, aux informés de France Info, nous sommes de toutes les luttes, de tous les combats. Voilà pourquoi nous sommes aux côtés des pensionnaires de la maison de retraite de Hubilac à Saint-Marcel en Bourgogne, privés de frites depuis un an. Et oui, comme le révèle en exclusivité le journal de Saône-et-Loire, les seniors en appellent au maire, il faut une nouvelle friteuse. Et l'édile leur a répondu, les frites, c'est pas pour tout de suite dans le texte, hein, vu le prix du matériel. Alors on attend toujours que les candidats à l'Élysée se prononcent sur ce sujet. La friteuse, un tabou français, c'est presque une enquête de Bernard de la Villardière. En tout cas pour eux, l'actualité est à point et bien dorée. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Emmanuel Anison de l'Obs, bonsoir.
Bonsoir.
Également Cécilia Gabizon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de la Street School, on vous reçoit souvent ici, mais ça vaut le coup de rappeler ce que c'est que la Street School.
C'est une école de journalisme gratuite. Ensuite, on recrute uniquement à la motivation, sans condition de diplôme, et ça espère amener de la diversité dans nos beaux médias.
Voilà, et vous y réussissez. Henri Vernet, également du Parisien aujourd'hui en France, bonsoir.
Bonsoir.
Et le metteur en scène et directeur du Théâtre du Rond-Point, Jean-Michel Ribes, bonsoir.
Bonsoir, Jean-Mathieu.
Alors, votre dernière pièce s'intitule « Sulky et Sulku ont des conversations intelligentes ». C'est publié chez Actes Sud. C'est qui ces deux personnages, Jean-Michel Ribes ?
C'est deux personnages qui ont été tirés d'une de mes pièces qui s'appelait « Musée au Musée Bas » et d'un film aussi.
Oui.
Et qui ont voulu continuer à parler après la pièce. Alors, je les laissais faire, finalement.
Mais vous êtes prisonnier de vos personnages, alors.
Mais, comme tout le monde. Oui. Enfin, si on n'est pas prisonnier de ces personnages, ça veut dire que c'est nous qui décidons qui ils sont, et c'est jamais très bon. C'est eux qui vous entraînent et qui parlent à votre place, et qui, finalement, disent des choses peut-être plus intelligentes que vous.
Et ça sera donc sur scène en mois d'octobre-novembre, hein, c'est
oui,
ça.
Oui, c'est ça, exactement.
Au Théâtre du Rond-Point.
Et je vous remercie d'avoir déjà réservé votre place.
Mais pas de souci, mais on l'a tous réservé, c'est obligé ce soir. Allez, ce soir, justement, quatre débats zigzagants d'actualité, dossier de campagne et la culture dans tout ça. Guyane, est-ce que c'est la fin du conflit? Le CSA gronde. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Alors, d'après des chercheurs australiens, le tigre de Tasmanie existerait encore et ne serait pas en voie d'extinction, comme souvent annoncé. Alors, une nouvelle qui n'a strictement rien à voir avec notre débat, mais c'est tout ce qu'on a trouvé pour rassurer les militants socialistes de leur parti qui serait en voie d'extinction. Depuis la déclaration de Manuel Valls expliquant qu'il voterait pour Emmanuel Macron dès le premier tour de la présidentielle, depuis le retour sur la parole donnée de soutenir le vainqueur de la belle alliance populaire, le parti socialiste est en plein doute. Certains se demandent s'il s'agit d'une poussée de fièvre ou du point final de l'acte de décès du Parti Socialiste. Oui, on n'a pas trop le cœur à faire la chenille, Russell Ferrino. Et le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon ne se prive pas de leur dire, Alexis Corbière.
Ce qui s'est passé hier, ici à ma place, oui, quand Manuel Valls s'est exprimé, c'est un petit événement historique, d'un certain point de vue. C'est la fin du Parti Socialiste. C'est l'effondrement, une étape majeure de l'effondrement de ce parti. Plus rien ne sera jamais comme avant. Et tout ça est un processus qui vient de loin. Ça n'est pas seulement Manuel Valls faisant cette déclaration qui a posé cet acte. Ça vient de l'ensemble des défaites, en plus politiques, des capitulations de ce parti. Ça dépasse les hommes. Ça dépasse Manuel Valls. Ça dépasse y compris Benoît Hamon.
Voilà, Alexis Corbière ce matin, donc porte-parole de Jean-Luc Mélenchon ce matin sur BFM. Henri Vernet, mort du PS, est-ce que l'expression est exagérée?
En tout cas, l'emploi depuis longtemps. Là, il a raison de rappeler que ça vient de loin. Mais rappelons-nous, en fin 2007, c'était BHL qui parlait du grand cadavre à la renverse. Et c'est vrai que on annonce cette mort depuis si longtemps. Bon, un jour, ça finira par arriver. Les partis finissent par mourir. On voit d'ailleurs les homologues du PS, hein, que ce soit en Grèce ou en Espagne, les partis socialistes là-bas, voilà, se sont cassés la figure. Et en Espagne, au profit, enfin pas tout à fait, mais quand même au profit d'ailleurs des mouvements citoyens qui eux se sont structurés. Juste une chose par rapport à ce que dit Corbière dans son analyse, il parle des défaites. Non, c'est pas uniquement ça, parce que d'autres partis ont subi des défaites récurrentes et s'en sont relevés. Là, le problème, c'est davantage qu'on voit bien que dans ce parti, c'est l'éternel problème de ligne. Alors, en même temps, le PS est le seul parti qui a admis en son sein des courants, puisque l'UMP, avant de devenir LR, s'était essayé, mais c'était réellement c'était presque des prétextes. Donc, ce parti qui a toujours vécu avec des courants, sur lesquels les ténors se sont affrontés très violemment, il y a l'historique congrès de Rennes à cet égard 90, oui. Est-ce qu'il ne réussira pas encore une synthèse là, candidat à son prochain congrès de décembre. Bon, honnêtement, c'est peu probable, mais en tout cas, il faudra que, c'est peut-être maintenant l'heure, non pas du décès, bien que nous-mêmes, aux Parisiens, ce matin, on a titré l'adieu au PS, mais l'heure de la grande clarification.
Mais vous vous rendez compte, c'est décembre, vous avez dit le congrès, ça semble tellement loin.
Alors, quand on ça voit semble loin, et en effet, le PS tel qu'il est aujourd'hui, donc avec ce miracle de la synthèse permanente, sans doute pas, sans doute que là, on verra émerger le fameux pôle social-démocrate qui s'appellera peut-être d'un autre nom, le même Valls d'ailleurs préconisait un changement de nom déjà il y a 5 ou 6 ans. Voilà. Et en effet, un PS aujourd'hui qui serait plus tribunicien, plus d'opposition, plus keynésien, etc., alors, qui sera peut-être récupéré soit par quelqu'un du PS, soit par quelqu'un de dehors, pourquoi pas un Mélenchon.
On se souvient d'ailleurs, Emmanuel Nizon, c'était dans l'Obs, hein, où il parlait sa première interview post-nomination à Matignon, il parlait de changer de nom du PS, il n'y a pas de tabou, etc. Est-ce que pour vous, là, Manuel Valls a poussé jusqu'au bout le concept des deux gauches irréconciliables?
Ah oui, puisqu'il l'a poussé tellement jusqu'au bout que dans l'Obs cette semaine, il explique qu'il a des points communs avec Fillon. Donc on est vraiment dans cette logique poussée jusqu'au bout. Mais moi je trouve, est-ce que c'est grave si le PS explose? Enfin, je veux dire, il y a un moment, il y a une telle hypocrisie dans ce parti aujourd'hui, dans ces deux lignes qui effectivement sont irréconciliables, enfin qu'ils paraissent en tout cas. C'est peut-être juste
logique,
très bien,
pour
enfin
vous, c'est
logique.
Dans la nature,
enfin, c'est l'absurde éléphant qui est en train de muer, et puis ça donnera quelque chose de nouveau, pourquoi pas quoi.
Pour vous, Cécile Guébison, c'est la fin de l'hypocrisie au PS?
Bah, en tout cas, moi je trouve que ça peut être positif, c'est-à-dire qu'effectivement la vieille maison qui craquelle de partout et qu'on maintient, c'est un peu comme papa et maman sont encore ensemble pour les enfants. Je pense qu'il y a quelque chose d'un peu sain dans le fait de, on peut le voir comme quelque chose tout à reconstruire. Aujourd'hui, il y a la vraie question de la ligne de la gauche. C'est quoi la gauche? Finalement, on définit mieux la droite aujourd'hui que ce que c'est que la gauche. Et la gauche pragmatique de gouvernement versus la gauche quelque part idéologique, mais à construire aussi. C'est intéressant de les séparer parce qu'elles étaient en train de s'annuler. C'est-à-dire, on n'entendait aucun projet se formuler. Donc, moi, je verrais plutôt ça comme un événement heureux. Je suis triste pour les gens qui ont cru au PS, parce qu'il y a toujours un deuil, quelque part. 50 000 adhérents qui, aujourd'hui, sont un peu paumés, puis ça a été 40 ans, comme ça. Mais je pense qu'en tout cas, sur l'idéologie, ça va être intéressant d'être dans un processus de transparence.
Alors, on va continuer à en parler dans un instant, et notamment par rapport à ce qu'a dit Manuel Valls et sa réponse ce matin sur France Info de Benoît Hamon. Pour l'instant, l'info à 20h10. Pierrick Bonneau.
C'est un revirement radical dans la politique étrangère des États-Unis. Le départ de Bachar al-Assad n'est plus la priorité pour la diplomatie américaine, annonce à l'instant de l'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies. Pendant sa campagne, Donald Trump avait souligné qu'il fallait établir des priorités et qu'il s'agirait d'abord d'en finir avec l'organisation État islamique. Le petit Vicente, toujours recherché ce soir, le garçon de 5 ans et demi, a été enlevé par son père hier après-midi à Clermont-Ferrand. L'homme de 27 ans est un détenu potentiellement violent. Le procureur de la République a décidé de lever l'alerte enlèvement. Plus de 800 appels téléphoniques ont été reçus en 24 heures. L'enquête se poursuit donc pour mettre la main sur l'enfant. En Guyane, les grévistes ont eu gain de cause. Les médias ont pu assister au début des négociations avec la délégation ministérielle. Les différents collectifs invités à discuter d'une sortie de crise en préfecture avaient claqué la porte en milieu d'après-midi car les médias ne pouvaient pas suivre les débats. Les discussions ont repris donc ce soir avec le ministre de l'Intérieur Mathias Fekl et celle des Outre-mer Erika Baredge. Le personnel des wagons-bars de la SNCF en grève pour le deuxième jour consécutif à l'appel des principaux syndicats. Ils réclament une amélioration de leurs conditions de travail et un salaire décent. Grève très suivie selon des représentants syndicaux. 100% des employés basés dans les gares de Lille, Lyon, Marseille et Montpellier. De 30 à 70% à Paris.
France Info. 20h, 21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons du Parti Socialiste et de sa possible disparition après l'annonce de Manuel Valls hier et qu'il votera pour Emmanuel Macron dès le premier tour de la présidentielle. Pour vous, Jean-Michel Ribes, c'est un coup de poignard, c'est un coup je veux dire, de fin du Parti Socialiste là.
C'est un coup de théâtre, c'est pas mal. Ouais. C'est enfin un peu de théâtre parce que je trouve qu'il y a un peu série B et acteurs de second rôle. Là, il y a tout d'un coup Iago. Enfin, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Maintenant, comme vous le disiez, est-ce que c'est très grave? Je ne sais pas. Je trouve que tous ces mots, parti socialiste, capitaliste, culture, sont tellement mâchouillés dans tous les sens. Je trouve qu'en effet, il faudrait changer tout ça. Vous savez, quand un bâtiment s'écroule, ou en tout cas qu'on demande de restaurer, il y a des concours d'architecture, on demande à des jeunes gens de remettre la façade. Je crois qu'il y a ça au niveau de la sémantique, au niveau des mots. On n'a plus envie d'entendre ces mots et donc peut-être plus envie de voir les gens qui se cachent derrière.
Et sur le respect de la parole donnée, comme on l'a dit, puisque Manuel Valls s'était engagé à soutenir le vainqueur de la primaire.
Pour vous, c'est ça. Oui, alors là, il y a une espèce d'histoire. Il y a la parole donnée contre ce qu'on appelle l'intérêt général. Est-ce que l'intérêt général... Voilà, passe avant la parole donnée. Qu'est-ce que c'est que la parole donnée? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle est donnée? Est-ce qu'elle est prêtée? J'en sais rien. Mmh. Tout ça. Moi, j'ai pas trop les leçons de morale, je vous dirais franchement.
Oui, mais l'intérêt général, c'est quoi? C'est-à-dire que l'intérêt général, vous êtes sûr que pour vous, c'est Macron qui représente l'intérêt général et que donc, au nom de cela,
quel
serait là, l'intérêt général?
Non, je ne dis pas pour moi, c'est l'intérêt général. Je veux dire que c'est ce que dit Valls pour sa légende. Je ne pense pas que l'intérêt général soit le même que le sien, mais je veux dire, bon, on peut dire aussi qu'il y a une espèce de, comme ça, sauver le Titanic, voilà, et à ce moment-là, on passe dans l'autre bateau, je sais pas, il y a quelque chose
alors,
comme ça.
Alors, à propos de Manuel Valls, justement, il a été encore plus loin aujourd'hui, puisque dans une interview dans l'Obs, il y a cette phrase, il faut assumer la responsabilité d'aider le prochain président de l'arc républicain, explique donc l'ancien Premier ministre, en premier lieu Emmanuel Macron, bien sûr, dès avant le premier tour, même si François Fillon sortait vainqueur de ce combat, il faudrait aussi chercher des compromis avec la droite parlementaire. Et ça tombe bien, Benoît Hamon était sur France Info ce matin, et il lui a répondu, Benoît Hamon.
Il conçoit des compromis avec François Fillon et pas avec Benoît Hamon. Ça en dit long, effectivement.
Pas plus de commentaires que ça. Vous voudriez quoi que Manuel Valls soit
sanctionné ? Non mais ce que je veux dire simplement, c'est que la gauche de gouvernement, je l'incarne. Ouais. Mais dans gauche de gouvernement, il y a gouvernement, exercice du pouvoir, mais gauche aussi.
Voilà, donc c'était Benoît Hamon ce matin sur France Info. Oui, Jean-Michel Ribes, après Henri Garnet.
On avait fait un débat avec Manuel Valls contre François
Jean-François
Copé au rond-point il y a longtemps, en disant ils vont se foutre sur la gueule, etc. Au bout d'un moment, on ne savait plus quoi dire parce qu'ils étaient d'accord. C'était déjà un signe il y a très longtemps où j'avais été très étonné de la manière dont Manuel Valls était presque d'accord avec Copé.
Ouais, Henri Garnet, c'est vrai que Manuel Valls a fait voilà, longtemps qu'il veut tisser.
Il transgresse, ça a toujours été sa marque de fabrication. Mmh. C'est le côté, la transgression, d'ailleurs, on l'a souvent comparé à Nicolas Sarkozy à cet égard, et c'est vrai, qu'il se ressemble dans la manière de faire de la politique. Il se ressemble aussi sur un autre point, qui est un égocentrisme, un égotisme absolument phénoménal. Et moi, je veux bien, vous avez raison, on peut balancer aux orties tout ce qui est vieux au nom de la modernité qui est tellement à la mode, et donc dire les vieux partis, tout cela nous embête, c'est vieux, c'est dépassé. Certes, peut-être, mais pour qu'il y ait quand même, pour que s'incarne une volonté de la gauche, qu'est-ce que c'est? On en parlait. Bon, un parti, ça peut aussi servir à ça. En revanche, un parti doit être vivant. Et là, Valls est sur la parole donnée. Je comprends, on voyait l'extrait que vous citiez. Hamon, il était presque au bord des larmes. Mmh. Et quoi qu'on pense de Hamon, on peut comprendre ça. Je veux dire que balancer comme ça sa parole, mais d'abord, ça choque les gens. Absolument, ça choque les gens. Moi, j'ai entendu des réactions hier des Français, peu importe qu'ils soient sympathisants de gauche, de droite, du centre, de tout ce qu'on voudra, ils sont choqués par ça. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit que les politiques sont déconnectés des Français. Et ils sont dans leur mode de vie, dans les avantages, etc. L'affaire Fillon, bref, tout cela. Mais ils le sont aussi déconnectés par cette façon, comme ça, voilà, la parole donnée, je m'engage, je signe un truc, et hop, je le piétine, je le fous au pied. Eh ben non. Et Valls, pourquoi il fait ça? Parce qu'il a besoin d'exister. Alors, il a besoin d'exister, de croire que les choses vont se recomposer autour de lui, alors qu'il était éliminé quand même dans la primaire.
Emmanuel Nizon.
Non, mais au fond, il y a une forme de cohérence, quoi. Beaucoup, enfin, personnelle, beaucoup plus forte que s'il avait respecté sa parole, qui allait absolument contre, et tout le monde le savait, ce qu'il était.
Il ne fallait pas qu'il la donne. Il pouvait faire ça, il pouvait le faire. Il pouvait très bien dire, attendez, moi, quel que soit le résultat de la primaire, je ne suis pas sûr de le respecter.
C'est si, à Guévison.
Il y a un peu il est en cohérence, et en même temps, il y a un peu un syndrome de Stockholm chez Valls, parce que finalement, il voulait être Macron, et Macron lui a volé l'espace qu'il voulait lui-même occuper. Donc, il le rejoint, parce que Macron dit ce que lui a toujours pensé, il s'est contenu dans ces deux gauches irréconciliables. Et moi, je suis pas d'accord sur le fait de conserver à tout prix, ou c'est pas l'histoire de valdinguer à tout prix ce qui est vieux. Mais par contre, regardez les résultats dans la société française, regardez même les résultats politiques, regardez la composition aujourd'hui, ce qu'on a du vote, en tout cas des intentions de vote, la déchéance de la gauche, sa perte de substance, tous ces petits arrangements, etc., ont conduit aussi à un délitement de l'engagement. Et ça, c'est grave. Alors, on va pas garder les structures contre la société.
Jean-Michel.
Oui, enfin, quand on parlait d'égotisme et d'égoïsme, il y a quand même quelqu'un qui est champion du monde là-dessus, c'est Mélenchon.
Ah, mais j'allais en parler,
que...
c'est incroyable.
Oui, mais j'essaye
de... Mais quel travail, bien
sûr. Mais Mélenchon, si quelqu'un tue le PS en ce moment, c'est Mélenchon, il veut sa peau, etc. Et Mélenchon, quand il dit « je suis avec vous, je travaille pour vous », non, il travaille pour lui. C'est incroyable qu'ils ne se mettent pas ensemble, c'est... scandaleux, parce que le peuple de gauche, qu'est-ce que c'est que la gauche? C'est des gens qui ont envie de changement, mais quand leurs représentants leur empêche par une non-alliance sur des idées très proches que ce changement arrive, c'est carrément une honte. Une honte, et de Hamon, et de Mélenchon. Mais Mélenchon surtout, Hamon...
Pourquoi Mélenchon surtout il fait la course en tête dans les sondages. Il ne va pas se mettre derrière un Hamon que même sa famille annonce perdant.
Il faut faire une cohérence. Emmanuel Lison. La cohérence, elle est effectivement Hamon-Mélenchon d'un côté et Valls-Macron de l'autre.
Mais qui conduit la voiture?
Comment?
Pas le contraire, mais
on parlait d'intérêt général. Il y a un moment, ce foot qui conduit la voiture. L'important, c'est que la voiture.
Mais il n'y en a qu'un seul qui sera élu.
Comment?
Il n'y en a qu'un seul qui sera élu. Il faut bien qu'il
mais
bien
attendez,
qu'un attelage présidentiel.
Là, je ne sais pas, il y a quand même un grand peuple de gauche qui est là, qui est perdu, qui ne sait pas, qui vote utile, pas vote utile. Ça aurait résolu quand même le problème si les forces de gauche, face à une droite quand même d'une violence absolument incroyable, avec un côté Dr Jekyll et Mr Hyde, qui va être sans doute passé je ne sais pas où. Là, il y a quand même quelque chose. On est trahi.
Par des leaders. Henri Vernet, vous en parliez tout à l'heure. Jean-Luc Mélenchon, pour lui, aujourd'hui, c'est finalement d'être devant. Aujourd'hui, Benoît Hamon, c'est une victoire.
Mais attendez, on sait, là, Jean-Michel Ribes a raison. On sait très bien que l'une des motivations essentielles, existentielles de Jean-Luc Mélenchon, c'est de tuer ce PS qui l'a fait tant souffrir, qui ne l'a jamais reconnu à sa juste valeur, etc., etc. Sans faire de la psychologie monoprix, je veux dire, il y a quand même un petit peu cet aspect-là. Puis, il estime qu'aujourd'hui, la force de gauche, c'est lui. Et d'ailleurs, ça devrait vous plaire, parce que justement, lui est sorti des structures partisanes classiques. Je trouve que Mélenchon et Macron sont les deux candidats qui font les campagnes les plus modernes, les plus intéressantes, au point de vue purement campagne. Donc, il se croit, en quelque sorte, il est à la tête d'un vaste mouvement. Il l'a montré l'autre jour avec sa marche des Insoumis. Est-ce que, pour autant, ça structure une force électorale vraiment puissante? Je ne crois pas. Bon, alors, quant à l'attelage avec Hamon, mais attendez, là, il est juste un petit peu... Il est trop tard. Pour des questions d'argent, pour des questions d'organisation, ça y est, on a fini dans les parrainages, les candidats, ils sont déclarés, et puisqu'on parlait des aspects bassement prosaïques, et de toute façon, un parti quel qu'il soit a besoin d'argent, a besoin d'élus, et pour cela, il faut des candidats ou législatifs.
Emmanuel Lison, pour vous, question très difficile, Benoît Hamon peut-il rebondir, tout simplement, à votre avis? À votre avis, est-ce qu'il y a encore un second souffle?
J'y crois pas, moi.
Oui.
C'est vraiment
compliqué avec avec finalement ces gens qui sont partis chez Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon qui te dépasse.
Mais je pense qu'il a un problème, c'est qu'il représente effectivement le vieux système profondément. Alors que dans son programme, il y avait des innovations, il y avait des idées neuves, etc. Mais fondamentalement, il a ce poids terrible. Voilà, de Hollande et du système et du PS, et donc c'est ce qu'il représente malgré lui. Et je vois pas comment
Surtout d'être lâché par sa famille, pire que le poids de Hollande, c'est le poids d'être lâché par tous, comme l'avait été, Ségolène Royal.
On va continuer à parler de la campagne présidentielle dans un instant, l'info à 20h20, Pierrick Bonneau.
C'est une information de Rue 89 que vous confirme ce soir France Info. Une nouvelle enquête visant l'entourage de François Fillon. Le parquet de Lyon soupçonne Laurent Wauquiez de détournement de fonds publics. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes s'est rendu à Shanghai en février avec des entrepreneurs pour participer à une soirée de soutien pour la campagne du candidat de la droite. Les enquêteurs se demandent si de l'argent public n'a pas été utilisé pour financer un tel voyage. Les négociations ont repris en Guyane. Les ministres de l'Intérieur Mathias Fekl et des Outre-mer Erika Baredge sont sur place pour tenter de trouver un accord de sortie de crise en plein cœur d'une grève générale. Les collectifs invités à la table des négociations avaient claqué la porte cet après-midi car les médias n'étaient pas invités à suivre les discussions. La presse a finalement été autorisée à assister au début de la réunion seulement. Le président Hollande a reçu cet après-midi son homologue allemand, Frank-Walter Steinmeier, à l'Elysée, au lendemain du déclenchement du Brexit par le Royaume-Uni. Les deux hommes rappellent la responsabilité éminente des deux pays pour dessiner l'avenir de l'Union européenne. La France et l'Allemagne sont essentielles pour que l'Europe puisse avancer, a déclaré François Hollande. Et puis l'Organisation mondiale de la santé demande une meilleure prise en charge de la dépression, première cause d'incapacité dans le monde. Selon l'OMS, environ 322 millions de personnes souffriraient de dépression sur la surface du globe. C'est près de 20% de plus depuis 2005.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Emmanuel Anison de l'Obs, Cécilia Gabizon, directrice de la Street School, Henri Vernet du Parisien aujourd'hui en France et le metteur en scène et directeur du Théâtre du Rond-Point, Jean-Michel Ribes. Avant d'en savoir un peu plus sur cette affaire autour de Laurent Wauquiez, on vient d'évoquer le chaos au PS, et bien maintenant c'est l'inquiétude au CSA. Oui, celui qui finira cette campagne sans prendre un anxiolytique sera vraiment champion. À France Info, comme tous les médias français, nous,
nous adorons le Conseil supérieur audiovisuel. Voilà, tout simplement, on le dit, ils sont sympas, on est faillots, donc ça tombe bien, on est fait pour s'entendre. Mais là, nous sommes presque en peine, puisque les sages de l'audiovisuel se retrouvent dans la même situation qu'une mère ou un père de famille au moment de partir en vacances. Mais comment tout ça va tenir dans le coffre de la voiture? Sauf que là, il s'agit de candidats à la présidentielle. Comment faire rentrer les 11 dans un débat, celui du 4 avril sur BFM et CNews, c'est acté, mais celui de France Télévisions le 20 avril s'avère plus difficile. Jean-Luc Mélenchon a dit que cette date était trop proche du premier tour. Emmanuel Macron lui a emboîté le pas. Et maintenant, c'est le candidat de la droite qui ne semble plus très chaud pour l'exercice, François Fillon.
Si Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon ne vont pas à ce débat, ça n'a aucun intérêt. Où il y a tous les candidats, où le débat n'a pas de sens.
Voilà, François Fillon, ce matin sur RTL. Cyril Gabizon, à votre avis, qu'est-ce qui embête les candidats? C'est le débat, la date? Ou c'est de se retrouver une deuxième fois?
Ouais, c'est tout. Un débat à 11, c'est juste pas possible. Et juste avant, on voit qu'en fait, les débats sont hyper important. Les Français attendent les débats. Quand on pose la question, en fait, les gens qui suivent très peu la politique suivent le débat. Et en fait, ça illustre un peu la culture orale et l'envie de la joute. Et puis aussi une forme de consumérisme. On les compare. Ils sont là les uns à côté des autres. Et moi, je crois que le vote cette année va se faire vraiment au dernier moment. Et quelque part, ce débat juste avant la fin de la campagne pourrait être assez décisif. Donc, je comprends l'hésitation des candidats à se retrouver dans une situation difficile comme celle-là.
Et en même temps, Rivernais, ce que répond finalement le CSA s'inquiète en effet de cette date trop proche du premier tour. Et mais ce que dit France Télévisions, c'est que tout le monde était au courant de cette date. Enfin, on les avait prévenus, on avait envoyé des recommandés, tout le monde le savait.
Oui, mais enfin, entre le moment où vous recevez ça, puis plus vous avancez dans la campagne et plus vous réalisez à quoi ça peut ressembler, vous pouvez en effet un petit peu changer d'avis. Il a raison, Fillon, hein, si les ténors n'y sont pas, ça n'a aucun intérêt. Mmh. Il va pas se retrouver avec les petits candidats, etc., sans manquer de respect aux petits candidats. Juste une chose par rapport à votre question, je pense qu'en effet, oui, c'est que imaginez le moindre dérapage, la moindre révélation, et on voit que cette campagne en est extrêmement riche, qui sortirait là, il aurait très peu de temps, le candidat ou la candidate concernée, pour se retourner.
Je vais expliquer pourquoi, parce que c'est un jeudi, ils auraient le vendredi, et à partir de minuit, ils ne pourraient plus parler.
Terminé, exactement. Voilà. Mais d'autre part, surtout, la vraie raison, c'est que, là, on vient assez justement de parler de style de campagne, les candidats, ça se construit une campagne. C'est quelque chose de difficile, ça coûte de l'argent, c'est important, ça mobilise beaucoup de monde, et donc c'est une vraie construction. Là, je m'adresse à l'homme de théâtre, c'est une dramaturgie, une campagne. Mmh. Et donc, et notamment Mélenchon, il construit sa dramaturgie, on le voit bien, et on sait qu'il prépare un gros événement pour justement le tout dernier jour, les tout derniers jours. Et donc, c'est sur cette image. En gros, chaque candidat, il entend donner lui son tempo, son image. Et c'est ça qu'il veut laisser en dernière image avant le vote. Et non pas un débat où il peut se passer tout et n'importe quoi.
Jean-Michel Ribe.
C'est vrai que c'est une dramaturgie, vous avez raison, mais c'est aussi un sport. Et comme ils sont 11, on pourrait leur donner un ballon de foot.
Oui.
Ça fait une équipe et ça.
Comme faut faire attention au tacle, rien. Faut faire attention au tacle, par contre.
Mais ils risqueraient rien, et je trouve que ça serait pas mal de les voir en sorte pour une fois. Parce qu'on les a vus beaucoup dans des émissions qui ressemblaient à des jeux télévisés. Un peu de foot pour nos 11 candidats, ça nous amuserait.
Voilà, tout suspect. Voilà, en effet, tous en short. Emmanuel Nizon.
Non, ce qui est intéressant, je trouve quand même, c'est aussi le changement de rapport de force entre les médias et les candidats dans cette présidentielle. Parce que à la fois, les débats sont super importants. Effectivement, les gens les suivent. Et en même temps, quand Macron ne veut pas y être, quand Mélenchon ne veut pas y être, aujourd'hui, il peut dire « Merde, j'y vais pas ». Et il existe par ailleurs, il existe par tout ce qu'il y a autour. Et finalement, dans cette histoire, penser que c'est quand même France Télévisions, c'est le débat de France Télévisions, et qu'il puisse se permettre de dire « Bah non, j'y vais pas », il y a quelque chose d'assez neuf là-dedans.
C'est Cécile Gabizon, et après, Jean-Michel, il parle.
Oui, non, ce qui est assez intéressant, la question que je me pose, moi, quand on dit les Français adorent la politique, ils sont affamé des débats. Est-ce que c'est des débats ou c'est le côté des jeux et du cirque? C'est le côté palais, est-ce que c'est le côté, il y en a un qui va tuer l'autre? Est-ce que ce combat-là,
alors,
qui s'excite?
Ce qu'on avait pu voir quand même. Oui, mais les deux, mais lors des primaires, de droite comme de gauche, on avait vu que le fait de s'exprimer sur des idées, véritablement voir les idées surgir et parler de thématiques qui ne sont parfois pas abordées, avait été apprécié de la part des Français. Cécile Gabizon.
Il y a deux points. Moi, je pense que les gens attendent vraiment les débats dans le sens où ils écoutent et ils comparent. C'est un peu comme tout d'un coup, on les a à côté. C'est pas la même chose qu'une communication ou quand un candidat est interviewé. Là, on les a à côté. Et il y a une forme de, effectivement, aussi de télé-réalité. On les a à côté. Ils sont dans The Voice et on les ressent les uns par rapport aux autres. Mais on attend d'ailleurs plus de pugnacité. Celui qui a remporté le dernier débat, c'est quand même Mélenchon, en fait. Parce que finalement, ça a été le plus offensif. Tous, ils se sont construits une posture.
Le meilleur acteur.
Voilà. Mais les autres se sont construits une posture un peu compassée, très très gentil, quelqu'un qui ne s'énerve jamais, alors que finalement, les gens attendent de la joute dans le débat. Et celui qui est dans la joute l'emporte.
Mais Henri Vernet, pour vous, vous attendez en tant que journaliste politique de voir à quoi ça ressemblait ces 11 personnes?
Ah oui, bien sûr, bah oui, carrément. Oui. Mais d'ailleurs, c'est une grande première. Attendez, les 11, là, on se demande vraiment. Et c'est ça, en réalité, ce qui ressortira le lendemain, ce sera ça. Ce sera comment se sera passée la confrontation à 11. Je pense qu'on sera davantage sur cette scénographie, sur qui, en effet, aura le plus imprimé, si on peut dire. Davantage qu'en effet, les idées, ouais. Parce que. Oui, c'est ça,
alors,
complètement.
C'est scénographie, mais c'est plutôt dramaturgie.
Oui, enfin, dramaturgie, c'est toute la campagne pour voilà. Moi. Mais, alors, et en effet, un débat sur 2 heures ou 2 heures et demie, ça l'est aussi.
On va continuer à en parler dans un instant. On va parler également de la situation en Guyane. On parlera de culture. Et oui, figurez-vous, c'est incroyable. Voilà la suite du programme des informés de France Info.
Venez découvrir l'histoire des élections présidentielles. Jusqu'au 13 avril, le train de la présidentielle sillonne la France en 31 étapes. Embarquez avec France Info à bord de ce train exposition exceptionnel et interactif et entrez dans les coulisses de la démocratie. Le train de la présidentielle, une initiative de la SNCF, France Télévisions, Radio France, l'INA et France Média Monde, avec Randstad, spécialiste de l'emploi. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Toutes les infos sur franceinfo.fr. France Info Météo, avec CIC et vous. Bienvenue dans une banque digitale et surtout humaine. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Changement de temps demain, arrivée d'une perturbation par l'ouest, avec un peu de pluie le matin entre la façade ouest et la Normandie. Un ciel chaotique, peut-être une ondée entre le sud de la Garonne, le centre, la région parisienne, le Nord-Pas-de-Calais, remplacé par des pluies l'après-midi, parfois orageuses au sud de la Loire. Un risque de grêle pour le sud-ouest en fin de journée. On retrouvera des éclaircies sur le nord-ouest. Du Languedoc-Roussillon vers l'Auvergne, les Ardennes, mis à part des nuages bas sur le Languedoc, on profitera d'un soleil voilé. Ce sera plus encombré l'après-midi, on ne sera pas à l'abri d'une ondée. Et puis de la Lorraine et de l'Alsace au Lyonnais, à la Côte d'Azur et à la Corse, du soleil, juste un peu voilé l'après-midi. Il fera doux le matin, 6 à 13 degrés. L'après-midi, beau contraste entre l'ouest et l'est, 15 degrés à Vannes, au Havre, 17 à Amiens, Limoges, Tarbes, 19 degrés à Paris et Marseille, 22 à Nancy, Mâcon, 24 à Grenoble et 25 à Strasbourg.
Pour acheter, louer, faire construire ou rénover, pensez NF Habitat, votre repère qualité. Plus d'infos sur nfhabitat.fr.
NF Habitat, une certification de l'association Qualitel.
NF Habitat, la vie devant soi.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Fanny Bouvard, bonsoir.
Bonsoir. Réunion de tous les représentants des candidats à l'élection présidentielle en ce moment à France Télévisions. Réunion autour du troisième et dernier débat télévisé de la présidentielle. Il est prévu pour le 20 avril sur France 2. 3 jours, donc, avant le premier tour. Jean-Luc Mélenchon a annoncé qu'il n'irait pas à cette date, jugée trop proche du scrutin, et Emmanuel Macron a, lui, émis des doutes. Nicolas Dupont-Aignan, lui, veut que cette date soit maintenue.
Certains candidats, ainsi que le CSA, font tout pour faire échouer un débat à 11 candidats, un débat important sur le service public. Après le scandale du débat tronqué de TF1, je me réjouissais, comme beaucoup de Français, de pouvoir échanger avec mes concurrents. Et M. Mélenchon, puis M. Macron, puis le représentant de Mme Le Pen, puis M. Fillon, font tout pour déserter, pour faire échouer notre démocratie. Moi, je ne peux pas l'accepter et je suis venu ici, devant France Télévisions, pour que France Télévisions soit ferme, organise ce débat le 20 avril, mette les pupitres, les 11 pupitres, les Français verront quels sont ceux qui sont prêts à la confrontation.
Nicolas Dupont-Aignan, le candidat de Debout la France. Avant le débat, c'était aujourd'hui opération séduction du monde agricole. Pour les candidats à la présidentielle, 7 des 11 étaient à Brest, répondant à l'invitation notamment de la FNSEA. Et c'est François Fillon qui a été le plus applaudi, déclarant, je cite, qu'il fallait arrêter d'emmerder les agriculteurs qui cumulent en ce moment les difficultés. Les discussions viennent de reprendre en Guyane entre ministres et collectifs de grévistes. Ces derniers ont quitté la table des négociations pendant plusieurs heures cet après-midi, exigeant la présence des médias. Après un refus catégorique, les ministres ont finalement accepté. Caméras et micros assistent donc à la première partie des échanges après plus de 10 jours de contestation sociale. Les recherches se poursuivent plus de 24 heures après la disparition du petit Vicente à Clermont-Ferrand. Mais l'alerte enlèvement, elle, a été levée. Selon le procureur, les enquêteurs disposent de suffisamment d'éléments pour continuer leurs investigations. Vicente, 5 ans et demi, a été enlevé hier dans l'après-midi par son père. Chasser Bachar al-Assad n'est plus une priorité pour Washington. C'est ce qu'annonce ce soir l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU. D'autres solutions sont possibles, selon elle, pour mettre fin au conflit. Il faut choisir ses batailles, a-t-elle affirmé. Dans le même temps, l'administration de Donald Trump annonce réexaminer l'accord de la COP21 sur le climat. Accord signé à Paris. Une décision finale sera prise d'ici la fin du mois de mai. Et puis en Corée du Sud, l'ancienne présidente a été arrêtée ce soir après plus de 9 heures d'audition par les juges. Park Geun-hye a été destituée il y a plusieurs semaines. Impliquée dans un large scandale de corruption, elle a été placée ce soir en détention provisoire. France Info, il est 20h33 et on retrouve les informés et Jean-Mathieu Pernin.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils gigotent de plaisir devant l'actualité, on ne les tient plus. Voilà, tout simplement. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Emmanuel Anison de l'Obs, le metteur en scène, auteur et directeur du théâtre du Rond-Point, Jean-Michel Ribes, également Cécilia Gabizon, directrice de la Street School, et Henri Vernet du journal Le Parisien, aujourd'hui en France. Une petite chose, Henri, on a entendu tout à l'heure dans le rappel des titres, il pourrait y avoir une nouvelle affaire Fillon, mais cette fois-ci qui serait avec Laurent Wauquiez. On ne connaît pas encore l'affaire, mais je voudrais juste revenir avec vous sur cette personne, Laurent Wauquiez. Pourquoi c'est important?
Il est central au sein de LR. C'est à la fois, si vous voulez, au sein des Républicains, c'est à la fois celui que tout le monde à droite aime détester, et en même temps, il s'est rendu indispensable. Et d'ailleurs, il ne cache plus que lui, il vise une chose, c'est le contrôle du parti. Alors lui, c'est un sarkozyste dur, hein, c'est de l'image à la droite décomplexée, voilà, qui affirme clairement ce qu'elle est, qui flirte d'ailleurs parfois avec des thèmes un petit peu extrémistes. Hein. Mais il est l'un de ceux qui continue à mener campagne assez fermement pour François Fillon. Donc c'est un homme, disons, incontournable au sein de LR, et surtout, c'est lui qui veut les clés de la maison, parce qu'il estime que voilà, le parti n'est pas tenu, et donc il fait tout pour le récupérer, évidemment. Enfin, on ne connaît rien de cette
bien
affaire
sûr,
pour l'instant.
Mais si jamais voilà, il y a une affaire, en tout cas, vous serez bien sûr tenu au courant. Encore une question pour vous, Jean-Michel Ribes.
Oui.
Tout à l'heure, on parlait du débat de France 2 qui est très compliqué, puisqu'en ce moment, les porte-paroles des candidats sont à France Télévisions. On dit souvent que la politique ressemble de plus en plus à un spectacle. Est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que vous diriez ça aujourd'hui?
Oui, sauf que c'est l'histoire de la société du spectacle, c'est pas très
bien
nouveau.
Sûr.
Pas très nouveau. Je trouve que c'est pas un très bon spectacle, c'est ça le problème.
Vous seriez pas prêt à débourser de l'argent pour regarder ce spectacle?
Je ne débourse jamais d'argent.
Ah bon?
Je n'ai que des invitations. Moi d'ailleurs, je suis pour compenser. Savary, il disait une chose formidable. Il disait, il faudrait que les acteurs payent pour jouer, ce qui évidemment soulagerait évidemment les producteurs. Non, mais oui, pour bien vous, sûr. Mais moi, j'ai été frappé d'une chose quand j'étais jeune. C'était de Chaban Delmas, que je trouvais un type plutôt pas mal. Mais il parlait comme ça. Il parlait comme ça. C'était fini. C'est-à-dire que rien ne passait à cause de ça. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut un physique, il faut être acteur, il faut beaucoup de choses en plus que d'avoir des idées ou ne pas en avoir, d'être un charlatan ou d'être un génie. Mais c'est vrai que là, on est dans une fonction qui est, comme le rappelait Vernet, de la dramaturgie. Mais aussi, il faut être un bon acteur, il faut avoir la voix posée, ce qui a un peu été... Oui. Pour Hollande, quelque chose qui l'a un peu gêné.
Mais Henri Vernet,
vous... Non, c'est très vrai, l'histoire du physique. Rappelez-vous, le premier débat télévisé célèbre, le duel, c'est Nixon-Kennedy en 60, et qui était à la fois radio et télévision. Oui. Et on avait calculé que Nixon avait gagné le débat radio, et en revanche, Kennedy, qui arrivait avec sa jeunesse, sa prestance, le côté nouveau aux États-Unis de l'époque, avait gagné le débat télévisé.
Voilà. Une chose encore sur cette nouvelle forme, finalement. Alors, on voit beaucoup d'émissions de télévision. Il y en a, le dimanche après-midi, c'est simple, hein, si on regarde la télé toute la journée, il n'y a que de la politique. On voit également chaque jour les candidats être auditionnés, comme par exemple aujourd'hui c'était les syndicats agricoles, auparavant c'était avec les patrons, par exemple les notaires, etc. Auparavant ça n'existait pas trop ça, Cécilia Gabizon. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui on a besoin de ça, de communiquer davantage?
Vous parlez pour les politiques?
Les politiques.
Ouais,
aujourd'hui, on le voit.
Évidemment, parce que finalement, tout est court-circuité. C'est un peu ce que disait tout à l'heure Emmanuel à propos du rapport aux médias. Hein, tout le monde s'est émancipé de toutes les règles et des paroles données, valses. On dit qu'on va au débat, on n'y va plus, etc. Mais d'autre part, on est obligé de surcommuniquer tout le temps. Donc, d'être omniprésent, mais on choisit mieux comment on peut le faire. Et il y a, alors, évidemment, le virtuel, quelque part, Emmanuel Macron a mis en place une sorte d'algorithme qui a repéré tous les mots-clés. Je dirais ça comme ça. Tous les mots-clés de la société. Et il y a un message subliminal qui qui sillonne entre ces mots-clés et qui passe assez bien, mais il y a aussi le réel. Vous savez que quand on vit dans cette vie virtuelle, c'est un peu comme le retour du live, du show, des concerts, etc. En fait, il faut qu'ils donnent de leur personne et on apprécie le physiquement. Il faut y aller. Il faut aller au contact. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils sont à la fois dans la société du spectacle sur scène et aussi dans le virtuel avec tous ces mots-clés.
Allez, on va passer maintenant à une société, à une, un sujet pardon, qui est tout à fait réel. C'est, figurez-vous, 46 000 personnes qui n'ont pas accès direct à un service d'eau potable. Un taux de chômage qui est plus de 22,3%, deux fois plus que sur le reste du territoire. Les prix de la consommation supérieurs de près de 12% et deux fois moins de médecins que le reste du pays. Des chiffres effarants pour une région française. Et là, c'est la Guyane, voilà, un peu effacée ces dernières 48 heures par la forte actualité politique en métropole. La colère gronde toujours dans la France d'outre-Atlantique. Le gouvernement a répondu à l'appel des manifestants en envoyant sur place la ministre, le ministre de l'Intérieur, Mathias Flickel, et Éric Barrette, ministre des Outre-mer. Et ils étaient attendus de pied ferme par des manifestants à la préfecture de Cayenne cet après-midi, avec beaucoup d'attentes, comme on va l'entendre, avec ce manifestant.
On a déjà dit tellement de choses, il y a eu tellement d'écrits, et jusqu'à présent on n'a rien du tout. Mais bon, mais nous sommes des hommes raisonnables, et comme on dit, nous sommes déterminés à faire quelque chose, à avoir quelque chose de positif.
Voilà, alors une négociation a commencé entre avec les deux ministres et une vingtaine de négociateurs de la société civile. Avant de s'achever, voilà, une demi-heure plus tard, car les grévistes souhaitaient que les médias soient invités à rendre compte des négociations, ce qu'a catégoriquement refusé le ministre de l'Intérieur, Mathias Flickel.
Un cadre de travail républicain suppose que nous puissions nous parler en confiance. Et donc ce cadre-là, qui avait été encore une fois agréé préalablement par tout le monde, suppose que ce soit un cadre dans lequel la presse reçoit les comptes rendus après.
De nouveau, bah finalement, ça a repris hein, et la presse est invitée à suivre les négociations. C'est vrai qu'Emmanuel Anison, on suit cette affaire en Guyane depuis une semaine maintenant, exactement. On voit que l'ambiance sur place est toujours électrique. Pour vous, la présence de ces deux ministres, ça va servir à apaiser ces tensions?
J'imagine un peu, sans doute, sauf que le problème, il est énorme, il est super profond, il est juste celui d'un territoire qui est considéré comme un sous-territoire, qui est abandonné depuis des années. C'est-à-dire que quand Fillon dit c'est le résultat du gouvernement Hollande qui depuis 5 ans ne fait rien, non, c'est le résultat juste d'une métropole qui laisse à volo la Guyane depuis toujours, quoi. Et quand on parle avec des gens qui y habitent, la situation, elle est. Je parlais avec une prof qui par exemple faisait cours, elle me disait un tiers de sa classe, c'est des enfants qui sont clandestins, qui n'ont même pas de nom. Voilà. Et elle me dit, alors je fais quoi? Si je suis les règles françaises, enfin voilà, évidemment, ils n'ont pas accès à la classe. Dans la réalité, évidemment, ils viennent. Et tout est comme ça là-bas. Enfin, donc le gap, il est énorme.
Et pourtant, c'est une région française. Voilà, c'est ça qui paraît étonnant et qui ne bénéficie pas de la même manière. Jean-Michel Ribes.
Moi, j'y suis allé en Guyane et j'ai même été, une de mes pièces qui s'est jouée, je suis allé à Saint-Laurent-du-Maroni. C'est un pays extrêmement attachant, avec des gens extrêmement accueillants, qui n'ont pas l'agressivité, et vraiment pour qu'ils en aient, il faut qu'ils aient des gros problèmes. Et je suis triste parce que c'est des gens formidables et c'est un pays, moi j'ai été absolument charmé par cet endroit-là. C'est magnifique.
On va continuer à parler de la situation en Guyane ce soir, l'info à 20h40, Pierrick Bonneau.
Reprise des négociations effectivement en Guyane entre différents collectifs et les ministres de l'Intérieur et des Outre-mer. Mathias Flickel et Erika Baredge sont à Cayenne pour tenter de trouver une solution de sortie de crise. Les grévistes avaient décidé de quitter la table des discussions cet après-midi car les ministres refusaient la présence des médias. Ils ont finalement été autorisés à assister au début des discussions. 7 des 11 candidats à l'élection présidentielle ont défendu leur vision de l'agriculture ce matin. Un grand débat à Brest organisé par le monde rural et notamment la FNSEA, le principal syndicat agricole. Débat où la question de l'Europe était omniprésente au lendemain du déclenchement du Brexit. Dernier à intervenir, François Fillon, candidat de la droite, a été le plus applaudi. Il a notamment déclaré qu'il fallait, je cite, « arrêter d'emmerder les agriculteurs qui cumulent les difficultés ». Fin de citation. Alerte enlèvement levée après la disparition du petit Vicente à Clermont-Ferrand. L'enfant de 5 ans et demi a été kidnappé par son père hier après-midi. Un détenu en fuite au profil violent. Le procureur précise ce soir que le garçon n'a toujours pas été retrouvé, mais les policiers auraient recueilli suffisamment d'éléments pour poursuivre leurs investigations. L'administration Trump est en train de réexaminer l'accord de Paris, annonce ce soir de la Maison-Blanche, qui fait savoir que la décision de rester ou non partie prenante de l'accord sur le climat serait prise d'ici fin mai. Le président américain n'a jamais caché son climato-sceptisme, ses doutes sur le réchauffement climatique. Il vient d'ailleurs de prendre un décret pour relancer l'industrie du charbon aux États-Unis.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de la situation en Guyane où donc les négociations ont repris entre les deux ministres présents sur place, arrivés hier, elles avaient été interrompues puis reprises, enfin voilà, ça a été un petit peu le foutoir. Cécile Guébison, c'est vrai, ce qui est assez étonnant, c'est quand même quand on voit aujourd'hui ces revendications, ce sont finalement presque toujours les mêmes, c'est être considérés comme des citoyens de seconde zone. C'est toujours.
Enfin, c'est pas leur revendication.
Non, mais c'est les revendications sont souvent les mêmes, et c'est souvent le constat que font voilà ces habitants. C'est on est considérés comme des habitants de seconde zone de la France, où nous sommes des citoyens de seconde zone.
Ouais, mais c'est assez paradoxal ce qui se passe en Guyane, parce que d'un côté il y a beaucoup d'argent public qui arrive en Guyane, et en même temps la situation est effectivement catastrophique et rien n'a été anticipé dans le sens où l'explosion démographique, pas de place dans les écoles, et là il y a vraiment un cycle qui est infernal de dégradation de la société, l'ultra-violence, la présence très très forte de la drogue, et à un moment donné on sent qu'une société peut complètement dérailler. Alors effectivement être considéré comme c'est vrai. C'est pas la... enfin, on dit que c'est la France.
Les chiffres sont effarants.
Voilà. Hein, et je me souviens être arrivé depuis le Brésil. J'ai traversé l'Oyapock et je voyais la cabine téléphonique à l'époque française et un képi, un gendarme avec son képi. Il y avait quelque chose d'assez insolite. Et en même temps, effectivement, c'était la France, mais oubliée, quoi.
Ouais, c'est ça.
La France oubliée, ouais.
Henri Vernet, on voit la ministre de l'Outre-mer, Rebecca Barrett, qui a parlé d'aller au-delà des échéances électorales. C'est toujours cette peur d'être oubliée. Après la campagne, parce que tous les candidats ont défilé, hein, de toute façon.
Oui, mais c'est bien ça le problème, c'est-à-dire qu'ils le disent eux-mêmes. D'ailleurs, ils n'existent, on se souvient d'eux uniquement au moment des élections, ou alors, en effet, quand il y a eu cette grande relance de la relation, j'allais dire métropole, j'allais dire franco-guyanaise, disons métropole région Guyane, quand il y a eu la création de Kourou, du centre spatial.
Ouais,
mais sinon, entre tout le laps de temps où la Guyane était donc servée de bagne, etc., ou de terre de colonisation, et la création de Kourou au début des années 60, je veux dire qu'il s'était rien passé. Et depuis Kourou, il y a eu ces quelques années un petit peu d'expansion autour, mais de nouveau, c'est tombé en déshérence. Alors, est-ce que vous disiez, Emmanuel, le problème, il est fondamental, etc. Oui, justement, il est fondamental. C'est-à-dire que, est-ce que la Guyane, elle doit exister dans un lien comme ça de verticalité avec la France, dont elle est distante de 7000 km, ou est-ce qu'au contraire, elle doit essayer de s'intégrer dans un bassin, certes, qui reste lui-même développé, mais dans un bassin régional, mais comme d'ailleurs, c'est le problème de beaucoup de territoires d'outre-mer, et avoir une existence propre plus importante, plus simple. Cette dépendance comme ça, totalement économique, administrative, avec la métropole. Juste un dernier point, l'histoire de la négociation. Attendez, mais il a raison, ça n'existe pas de négocier comme ça devant les écrans. Chacun est dans sa posture à ce moment-là et on n'avance pas. Qui plus est, avec un gouvernement qui sera plus là dans un mois, de toute façon. D'ailleurs, on est heureux de découvrir le visage de Mme Barrègue, mais enfin, on est un peu dans des discussions irréelles. Là on est dans une... on revient toujours au théâtre. On est dans du théâtre d'ombre.
Il y avait un côté intéressant, c'est que les médias étaient convoqués comme tiers de confiance.
Oui.
Ça n'existe pas, c'est assez étonnant.
Ça montre la défiance.
Emmanuel Anison, oui.
Non, mais ça montre donc évidemment la défiance vis-à-vis du politique.
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand même, ce qui est assez intéressant, c'est aussi sur place, quand on voit les organisations syndicales, on voit tous les syndicats, y compris le MEDEF local, qui protestent. Hein. Donc on n'a pas l'habitude de le voir véritablement protester. On voit que la situation, mais aussi c'est ça, Emmanuel Anison, c'est cette étrange vision sur le territoire guyanais de voir finalement des coins de misère et en même temps une technologie de pointe. Avec Kourou, quoi. C'est ça qui paraît totalement...
La technologie de pointe, elle est sur un territoire bien précis,
bien sûr, oui,
avec des personnes qui travaillent bien précises. Et je pense que ça ne... Et là, ça n'a pas beaucoup d'incidence sur l'ensemble
le reste
de la population.
C'est ça, oui. Jean-Michel Ribes.
Oui, moi, c'est vrai, sur aussi l'importance au moment de l'élection de cette population qui devient des citoyens français de première zone, puisqu'ils vont élire le président de la République. Moi, je me souviens, quand j'y étais, il y avait des gendarmes en pirogue qui sillonnaient, et j'étais avec eux pour regarder le Maroni, et qui allaient dans des villages indiens qui ne parlaient non seulement pas français, mais même pas un langage autre que leur langage d'indigènes originaux, qui étaient nus, etc. Et on leur demandait s'ils allaient voter pour Giscard d'Estaing ou pour François Mitterrand. Je dois dire que ça, le théâtre était formidable. Et les gendarmes arrivaient en disant « On ne vous veut que du bien, on ne vous veut que du bien ». C'était extraordinaire.
Et pour qui ils ont voté, finalement, vous savez?
Ça, je ne peux pas le dire, c'est un secret d'État.
C'est un secret, d'accord, très bien. Allez, de toute façon, la situation en Guyane est en train d'évoluer. on verra la suite des négociations, bien sûr, sur France Info, parce qu'on va parler maintenant, on va passer à un moment, alors qu'on essaye de trouver un titre hein, depuis le début de l'élection, mais on ne trouve pas, donc ce soir ça va être, mais plus qu'on vous dit qu'il y a des programmes, voilà, hein, bon, on n'est toujours pas sûr du titre, mais c'est le moment où on passe en revue, voilà, les idées des candidats concernant un domaine. Alors, on a déjà évoqué l'Europe, la fonction publique et l'environnement, et là, nous allons parler culture. Alors, le journal du dimanche avait demandé aux prétendants à l'Élysée quelles étaient leurs œuvres préférées, littéraires, cinématographiques, picturales, et bon, c'est pas Romuald qu'on doit appeler, mais il y a des choses étonnantes comme Benoît Hamon, quand on connaît le contexte actuel, savoir que son film préféré est Apocalypse Now, c'est vrai que ça prend son sens quand même. Alors au niveau des propositions importantes, le candidat socialiste à la présidentielle, lui, veut consacrer 1% du PIB à la culture, comme Jean-Luc Mélenchon. François Fillon veut investir 2 milliards dans la restauration du patrimoine, tout comme Nicolas Dupont-Aignan. Emmanuel Macron veut créer un pass culture d'une valeur de 500 euros pour les jeunes de 18 ans. Marine Le Pen veut un plan pour le patrimoine et réformer le CSA. Ça. Jacques Cheminade, alors lui, veut un palais de l'imaginaire, et oui, dans toutes les régions. Et Philippe Poutou, l'extension du service public. Nathalie Arthaud, François Asselineau et Jean Lassalle n'ont quant à eux pas de mesures spécifiques, hein, en fait, de culture dans leur programme. Juste une chose avant de vous passer la parole, Jean-Michel Rive, Cécile Cabizon, c'est vrai qu'on parle peu de culture. Est-ce que pour vous, ça a toujours été le cas des politiques? Est-ce qu'ils s'en servent de la culture pour se donner un petit vernis
Oui, c'est vraiment, ça reflète bien l'époque qui est que, avant au moins, on essayait d'être mieux, plus beau que ce que l'on était en parlant de culture. Et puis par ailleurs, il y a eu quand même une grande politique culturelle en France et qui est plutôt un succès, enfin, et qui a contribué au rayonnement de la France, au développement de la culture, des musées, des théâtres. Donc ce qui est incroyable, c'est que c'est le domaine où on est le plus, enfin un des domaines où on réussit extrêmement bien et qui a complètement, en gros, toutes les bonnes nouvelles, là où on est bon, ça a disparu de la campagne. On est dans la campagne de l'anxiété. Alors, moi, je trouve que ça reflète aussi l'époque et une certaine, peut-être, vulgarité de l'époque, dans le sens où ne même pas aspirer à quelque chose de meilleur, de quelque chose de plus beau, c'est un peu inquiétant.
Jean-Michel Rive, alors, vous êtes bien sûr concerné aussi par ce volet. Qu'est-ce que vous en pensez de ces différentes propositions que j'ai énumérées? C'est vraiment les principales hein, des candidats.
Je pense qu'elles sont, remâchouiller, elle n'invente pas grand-chose, de donner 500 euros à des étudiants, bon, peut-être. Moi, je crois qu'il faut, si vous voulez, je trouve que vous avez tout à fait raison, c'est le pétrole de la France. Et quand on va à l'étranger, les gens disent que vous avez de la chance, de la culture, etc. Et c'est une honte pour les hommes politiques de parler culture. C'est comme si on parlait d'une danseuse qui dilapide les deniers de la France. On oublie que si 80 millions de touristes viennent ici, c'est pas pour savoir comment marche le système bancaire, etc. C'est quand même pour voir. Bon, il y a aussi une chose qui m'agace beaucoup dans les propositions, c'est l'éternel truc du patrimoine. Il faut savoir que le patrimoine n'est rien d'autre que de la création d'il y a quelques années. Et si on oublie la création d'aujourd'hui, quel sera le patrimoine de demain? Ça, c'est important. D'autre part, moi, je crois aussi qu'il faudrait réinventer des mots. Je crois que la culture est un mot qui est fini.
Le mot culture?
Oui, je crois, parce qu'il se met à tout, à la culture de la culture des dentistes, la culture. Je vais dire ça. Quand le culture sort mon revolver, etc. Moi, j'aimerais qu'il y ait le ministère du désir augmenté, avec un secrétariat d'État à l'insolence d'être soi. Voilà, ça donnerait un peu de jus, un peu d'envie. Et je trouve aussi que quand j'entends Monsieur David Rachline qui supprime,
donc, juste par parole de Marine Le Pen et maire de Fréjus,
qui supprime des ateliers d'écriture, de création, etc., qui met des industriels dans leur local et qui met une pancarte après où il y a écrit « Avant, il y avait des fainéants, maintenant, il y avait des travailleurs. Bon avenir quand le Front National sera au pouvoir, si toutefois il l'est, parce que ce que vous disiez, c'est très juste. Il y a non seulement la beauté, mais il y a surtout le rêve. Et non, je te dis encore un truc, c'est qu'il y avait un prisonnier qui a écrit une phrase formidable, un prisonnier qui a dit « Je préfère qu'on m'enlève ma gamelle, mais pas qu'on m'ôte mes livres ». C'est assez important.
Allez, qu'on s'en souvienne. On va continuer à parler du désir augmenté. Voilà, tout simplement. Dans un instant, l'info à 20h50, c'est Pierrick Bonneau.
Laurent Wauquiez a-t-il utilisé de l'argent public pour la campagne de François Fillon? Le parquet de Lyon ouvre une enquête pour détournement de fonds publics. En février, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a organisé un voyage de 5 jours à Shanghai avec des entrepreneurs. Point d'orgue de ce voyage, une soirée de soutien pour la campagne du candidat de la droite. La police judiciaire a perquisitionné le conseil régional il y a une semaine pour saisir des documents. Serge Ayoub relaxé au procès des loups blancs. Le tribunal correctionnel d'Amiens condamne le chef du clan néo-nazi Jérémy Mourin à 9 ans de prison. Mais le mentor des Loups Blancs n'est donc pas condamné. 18 prévenus comparaissaient à ce procès pour organisation ou participation à un groupe de combat, association de malfaiteurs ou encore violence au pluriel. Chasser Bachar al-Assad n'est plus notre priorité. Donald Trump avait prévenu pendant sa campagne, son administration allait se concentrer sur les djihadistes de l'État islamique. Confirmation ce soir de l'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies. Il faut choisir ses batailles. Notre priorité n'est plus de se concentrer sur le départ du président syrien. Si vous vous fournissez chez Engie, sachez que les tarifs du gaz sont en baisse au 1er avril. Diminution comprise entre 0,3 et 0,8% selon votre utilisation, cuisson, chauffage ou eau chaude. Selon la Commission de régulation de l'énergie, les tarifs du gaz ont chuté de plus de 13% sur les trois dernières années. Et puis un record pour un 30 mars. Il a fait 23 degrés à l'ombre cet après-midi à Cherbourg. Du jamais vu. Profitez-en, la pluie revient demain.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons encore quelques minutes programme, hein, puisque ça se décide aussi une élection présidentielle sur un programme, on l'avait un petit peu oublié ces derniers temps. Et là on parle de culture. Henri Vernet, au dernier débat, certains se sont amusés justement à voir si le mot culture avait été prononcé, non pas une seule fois en fait. On se rend compte que, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un vernis toujours, c'est-à-dire que ça se donne, c'est pour se donner une posture, la culture, et que finalement on va pas plus loin que ça.
C'est-à-dire ça, à la fois un vernis, c'est surtout devenu une variable d'ajustement. Dans des temps de crise où il y a beaucoup moins d'argent, où l'État peut moins faire et doit, et finalement doit se serrer la ceinture et doit vraiment choisir. Oui, non, non. Mais... je vous dis juste comment c'est vécu. Voilà comment eux le voient. Et c'est vrai que autrefois c'était longtemps, c'était l'écologie, l'environnement, qui était la variable justement. Aujourd'hui, moins, parce qu'on sent l'urgence, etc. Et donc, la culture le devient. Mais par ailleurs, moi, j'entends parfaitement ce que vous dites, etc. Je comprends, c'est vrai que c'est très important. C'est, ça ne doit pas être un vernis, justement. Ça doit être beaucoup plus mieux enseigné, tout ce que l'on voudra. Et on doit y montrer notre attachement. En même temps, c'est vrai aussi que la France a une politique culturelle exceptionnelle, bon, Malraux, etc. Mais peut-être aussi que l'État se mêle peut-être un peu trop de culture. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pays qui ont une, je pense aux États-Unis par exemple, où la vie culturelle, pourrait même dire le contraire, est quand même artistique, disons, c'est la raison, culture maintenant c'est devenu une autre signification. La vie artistique, il existe, que ce soit le théâtre, non, les arts plastiques, la peinture, etc.
Attendez,
il y a beaucoup de mécénage. Non, peut-être pas le théâtre.
On va juste écouter deux secondes. Alors, attendez, Jean-Michel Ries, après Emmanuel Anison, parce que j'aurais compris que tout le monde.
Parlons sur un plan économique, simplement. Il y a plus de gens qui travaillent dans la culture que dans l'automobile, équipementier compris, par exemple. Il y a plus de gens qui vont dans des théâtres que dans des stades de foot. Les gens ne le savent pas. C'est un retour économique important. Il n'y a pas simplement le rêve et c'est formidable.
Et c'est ce que je dis, ça.
Moi, ce que je note dans les programmes, c'est que voilà, on parle d'argent, on dit je vais mettre 2 milliards, je vais mettre le pass Macron 500 euros pour les gens de 18 ans qui vont. Mais sauf que la culture, quand il y a plus de gens dans les théâtres, il y a surtout deux mondes. Il y a le monde de ceux qui vont au théâtre, le monde de ceux qui lisent, et puis il y a le monde de ceux qui n'y vont pas et qui ne lisent pas. Et moi, ce que alors, en tant que mère de famille, par exemple, j'ai deux enfants qui sont au collège, ce que je vois, c'est que l'école, par exemple, qui pourrait être un formidable creuset de culture avec des profs qui pourraient amener les enfants au théâtre,
le font très peu.
Ma fille, en 4 ans, elle était deux fois. Et évidemment, à ce moment-là, ça, c'est les familles. Et on sait très bien que l'inégalité, elle naît dans les familles. Il y a les familles qui amènent leurs enfants et qui leur donnent cette culture, et elles, celles qui ne le font pas. Et c'est pas une question d'argent,
bien sûr.
Et fondamentalement...
Emmanuel, mais il y a aussi... mais nous, on a été beaucoup travaillé dans des zones d'éducation prioritaire. Et on a été voir des élèves qui étaient bloqués et qui n'étaient pas, comme disait je suis être ne pas être, ils n'étaient pas et on les a fait travailler, ils sont devenus d'autres personnages à travers le théâtre et ils ont explosé et ils ont été de magnifiques personnes qui sont venues, qui ont été intéressantes. Ça aussi c'est important.
Oui. Oui,
c'est important.
Ça va dans le même sens.
Parce que moi quand on me traînait au théâtre, c'était un enfin, combien de fois j'ai crié à poil Britannicus, quoi, la Comédie française.
Ah, bravo.
C'est pas mal quand même de faire
mais
ça.
On est d'accord.
Oui. Mais maintenant aujourd'hui,
c'est
créer le désir. Il faut faire l'amour avec la culture.
Voilà.
Il faut faire l'amour avec la culture. C'est pas qu'une question d'argent.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a aujourd'hui des femmes et des hommes politiques amoureux de culture, justement, quand vous les regardez, justement, parmi les 11?
Oui, peut-être, mais en fait, on s'en fout.
Ça veut dire, en fait, on s'en fout. Parce que finalement, non, il y a plusieurs choses qui nous intéressent. Il y a ce que la dynamique de la société, est-ce que les gens ont l'accès à la culture, est-ce qu'ils en ont le goût, ou est-ce qu'ils la découvrent, est-ce qu'ils peuvent s'épanouir. Tout ne vient pas de... Heureusement, ils ne sont pas nos modèles en toute chose. Par contre, il y a donner de la viabilité à des choses qui sont peut-être un peu plus pointues, qui ne sont pas uniquement de la culture commerciale. Et en fait, ça, je pense que ça a un sens.
Et les gens sont très... Ça... Et le public est très curieux de ça. Et la banlieue, etc. Nous, on a fait venir Kerry James, il y avait des milliers de jeunes de la banlieue qui sont venus, mais non, mais parce que il n'y a pas que Paris, il n'y a pas que la petite bande de Paris, des ayatollahs de la culture.
Je dois vous couper, hein, voilà, parce que ça doit se terminer.
Oui, vous voyez qu'il y a de la censure chez vous, je le savais.
Voilà.
Ça n'arrête pas à Maurice Clavel, là.
Les informés de France Info, ça doit se terminer. Merci, justement, Jean-Michel Ribes. Je rappelle votre dernière pièce qu'on peut trouver chez Actes Sud, Sulky et Sulcou ont des conversations.
Sulcou, s'il vous plaît. Sulky et Sulcou
ont des conversations, voilà, intelligentes. C'est ça qui est important de dire intelligentes. Merci également à Cécilia Gabizon. La une du Parisien aujourd'hui en France, Henri Vernet, demain.
Alors, c'est pas la culture et c'est pas la politique non plus. Ah. On est décalé. C'est le boom de la chirurgie esthétique, mais est-ce qu'elle ne va pas trop loin? Est-ce qu'on n'incite pas un peu trop les jeunes femmes, les jeunes gens, etc., à se modifier un petit peu? Enfin, voilà.
Très bien. À retrouver demain.
Un gros dossier demain.
Le Parisien aujourd'hui en France et la une de l'Obs.
Sur les couples présidentiels, vous connaissez Brigitte Macron, Pénélope, la femme de Benoît Hamon, etc.
Très bien. Emma, à retrouver également dans l'Obs. Ah, il est temps pour nous de retrouver Matteo Maestrachi. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous.
Pour le classico programme ce soir.
Et on va évidemment évoquer Michel Patignan. Il a décidé de parler pour la première fois depuis un an au journal Le Monde. C'est tombé ce soir. Il revient sur sa situation, sa suspension, sur un certain Sepp Blatter qui dit-il voulait son scalp. Une large partie de notre émission sera consacrée à ses confidences. On évoquera aussi la bonne forme du foot féminin français.
Le classico, votre débat sport, c'est dans quelques minutes sur France Info.